Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous lisons les méditations métaphysiques de René Descartes. Le commencement est le suivant. Moi, j'ai pris la libre résolution de douter de toute chose. J'ai découvert la première chose indubitable qui est moi-même, moi-même comme puissance de pensée. Dans la troisième méditation, en rentrant à moi-même et en considérant les pensées qui sont dans le trésor de mon esprit, j'ai découvert une idée incomparable, une idée unique, singulière, exceptionnelle. C'est l'idée de Dieu, l'idée de l'infini. Je ne peux pas être l'auteur de l'infini. Et cet infini, je ne le comprends pas, en toute rigueur du terme. Maintenant, j'arrive à la quatrième méditation. La quatrième méditation me fera découvrir quelque chose d'autre, une autre puissance de l'âme qui est la volonté. Et là encore, c'est quelque chose de précieux pour penser l'héritage cartésien et la philosophie chrétienne chez Descartes, ou l'héritage du christianisme chez Descartes. Quelle est la démarche de la quatrième méditation ? Il me faut davantage méditer sur le pouvoir qui est en moi, ce pouvoir de penser, et me demander ce que signifie le vrai et le faux. Quelle est la cause de l'erreur, puisque j'ai maintes fois expérimenté que je suis capable de me tromper lorsque j'apprécie quelque chose, lorsque je porte un jugement au sens philosophique du terme. Quelle est la cause de l'erreur et pourrais-je éviter l'erreur? Le fait que je sois capable d'erreur est-il le signe d'une radicale insuffisance de ma nature et faut-il donc éventuellement incriminer mon auteur en considérant que celui qui m'a donné l'être aurait pu mieux faire en me faisant incapable d'erreur? Vous voyez donc que ce qui est en jeu, c'est ce qui s'appellera avec Leibniz une théodicée, une justification de Dieu. Il s'agit de montrer que Dieu, en me créant capable d'erreur, a fait au mieux, la chose la meilleure possible. Alors, quel est le chemin de Descartes dans la quatrième méditation? Je l'ai dit, il s'agit de chercher l'origine de l'erreur. L'origine de l'erreur, chez Descartes, demandera d'examiner deux facultés de l'âme humaine, l'entendement et la volonté. L'entendement, c'est ce qui me permet de percevoir des pensées, de saisir des idées, de connaître. Et ces idées sont variées, je n'entre pas dans cette considération maintenant. De l'autre part, se trouve la volonté. Et là encore, j'ai une familiarité avec ma volonté, il m'est arrivé de dire oui, de dire non, d'affirmer, de nier, et chaque fois donc c'est une certaine expérience de la volonté qui est la mienne. Je note au passage un verbe très important dans toutes les méditations, c'est en latin le verbe experior, en français j'expérimente. Les méditations métaphysiques consistent à expérimenter des puissances de l'âme. J'ai fait l'expérience de mon intelligence en voyant que j'étais ignorant, en voyant que je pouvais connaître certaines idées. Maintenant, je me rends attentif à l'expérience qui est celle de ma volonté. Qu'est-ce que j'ai expérimenté quand j'ai expérimenté ma volonté? Eh bien, d'abord l'intelligence ou l'entendement. Ce que l'expérience me manifeste et ce que la raison me confirme, c'est que mon entendement n'est pas tout puissant. C'est que mon entendement reçoit des pensées, mais n'est pas capable de tout connaître. En revanche, si je considère ma volonté toute seule, je découvre que, par sa forme, ma volonté est infinie, que ma volonté est un tout indivisible. Vouloir ou ne pas vouloir, c'est chaque fois un acte unique et un tout indivisible. Il faut donc ici distinguer l'entendement d'avec la volonté. L'entendement est fini. Et je peux même penser à un entendement infini qui n'aurait pas les limites qui sont les miennes. Mais en revanche, ce que je découvre de ma volonté ou de la volonté humaine en général, c'est qu'elle est infinie. Et voyez par là quelque chose de nouveau qui apparaît encore. Alors, avançons tranquillement. par la volonté, en tant que je découvre qu'elle est infinie, je découvre que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que chez Descartes, c'est plus par la volonté que par l'entendement que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque Dieu est une intelligence et une volonté unifiées, infinies, tandis que chez moi, seule la volonté est infinie. Donc c'est bien par la volonté que je ressemble à Dieu. En quoi consiste ce pouvoir de la volonté? C'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire, d'affirmer ou de nier, de poursuivre une chose ou de fuir une chose. Et Descartes explore ici ce qui a été nommé par Saint-Augustin et à partir de Saint-Augustin, le libre arbitre. Descartes est l'héritier, ou plutôt il a été l'élève des jésuites au collège de la Flèche, et la définition que donnent les jésuites du libre arbitre comme pouvoir d'indifférence, c'est le pouvoir qu'a la volonté de se porter au contraire de ce à quoi elle se porte. Et ce pouvoir-là, nous l'expérimentons tous les jours. Ce qui veut dire que la volonté n'est pas déterminée nécessairement. Il n'est pas nécessaire pour l'homme de vouloir ceci et non pas cela. L'idée de libre arbitre chez saint Augustin renvoie à l'idée d'une libre disposition de soi, qui signifie donc que ce qui est libre, c'est ce qui est en mon pouvoir, ce que je peux souverainement décider à partir de la pensée qui est la mienne. Et voilà donc Descartes ici méditer de nouveau sur le libre arbitre, et nous sommes bien là dans une grande pensée qui a un grand héritage, puisque cela veut dire que dans la tradition juive et chrétienne, ce que nous découvrons, c'est que Dieu est liberté. Et nous découvrons à partir de là que l'homme est liberté, comme liberté finie, qu'il ne se comprend qu'en relation avec la liberté de Dieu. Et donc à ce moment-là, la relation de l'homme et de Dieu devient la relation d'une liberté avec une autre liberté, une relation de liberté à liberté. Descartes explore les différents degrés de la volonté. Le plus bas degré, il l'appelle liberté d'indifférence. Cela consiste à être dans l'indifférence, c'est-à-dire à être dans l'indétermination à l'égard de quelque chose, quelle qu'elle soit. C'est le plus bas degré parce qu'il y a là un défaut de connaissance, dans la connaissance, qui m'empêche de savoir qu'une des deux choses que j'envisage, par exemple, est meilleure que l'autre. Le degré le plus haut de la liberté chez Descartes, c'est ce qu'il appelle la liberté éclairée, qui est telle que, sachant ce qu'est le bien véritable, par mon entendement, je suis capable de l'embrasser, d'y consentir, de le vouloir par ma volonté. Descartes pourra donc définir le libre arbitre ainsi, dans les principes de la philosophie. Je lis, « Nous avons une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble. Ceci peut être compté pour une de nos plus communes notions. » Voilà donc la liberté de l'homme, le pouvoir de donner son consentement, le pouvoir de donner ou de ne pas donner son consentement. Le problème du consentement, le problème de la volonté est quelque chose de grand qui honore l'âme humaine. L'homme est libre en tant qu'il est capable du oui et du non, capable du je veux ou du je ne veux pas, capable donc de donner librement son consentement. À partir de là, continuons le cheminement cartésien. Comment expliquer l'origine de l'erreur? Eh bien, nous la comprenons maintenant, l'origine de l'erreur. L'origine de l'erreur ne vient pas de l'entendement seul ou de la volonté seule, mais du rapport entre les deux. Du fait que il m'arrive de donner mon consentement à une opinion ou à une idée en l'absence de lumière. Et nous sommes bel et bien capables, alors même éventuellement que nous savons que nous n'avons pas suffisamment de lumière eu égard à une idée, pourtant de la tenir pour vrai mordicus. Donc ici, l'origine de l'erreur est dans l'âme humaine. L'origine de l'erreur consiste dans ce qu'on peut appeler la transcendance de la volonté par rapport à l'entendement ou le débordement de la volonté par l'entendement. Nous sommes capables d'affirmer ou de nier sans lumière de la raison. La volonté étant infinie, elle peut affirmer ou nier des choses dont l'entendement ignore tout ou beaucoup. Et c'est bien là quelque chose d'infiniment précieux à découvrir. Parce que cela veut dire que l'auteur de l'erreur, c'est moi-même. Je n'ai à blâmer nul autre que moi-même si je commets une erreur. Et vous voyez ce que cela implique, c'est que cela implique une thèse aussi sur le péché, c'est que si je me suis trompé, si j'ai commis une erreur, mais aussi bien si j'ai péché, il n'y a pas d'autre auteur de l'erreur ou du péché que moi-même. Et c'est par là que nous retrouvons ce que j'avais appelé tout à l'heure la théodicée. Dieu est hors de cause, c'est moi qui me trompe, par précipitation, par ignorance, mais par affirmation d'une chose en situation d'ignorance. Et pareillement, c'est moi qui pêche. Il y a donc bien ici une très très grande découverte qui permet donc aussi à Descartes, en conclusion de la quatrième méditation, de continuer cette théodicée en donnant à chacun des règles. La première règle ici, c'est qu'il est possible à chacun d'entre nous de se garder de l'erreur en se gardant de la précipitation. Et chose étonnante, Descartes va jusqu'à parler d'une forme d'infaillibilité et d'une forme de progrès. Et nous voyons bien en quoi ici nous avons affaire à un grand héritage encore de la pensée chrétienne. Qu'est-ce qui serait le meilleur ? Créer une machine incapable de faillir ou bien créer un être libre capable de faillir et capable de faillir par soi-même ? Ce qui est le plus grand, c'est paradoxalement donc la capacité de faillir. La principale perfection de l'homme, la plus grande et la principale perfection de l'homme, dit Descartes, c'est son libre arbitre. C'est paradoxalement ce qui le rend capable d'erreur et de péché, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'il est responsable et c'est ce qui fait qu'il est capable d'une certaine infaillibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, une certaine infaillibilité ? Cela veut dire que si je sais que je manque de lumière, que je manque de connaissances, il me faut suspendre mon jugement et ainsi je ne me tromperai pas et le cas échéant, je ne tromperai pas. L'homme peut donc parvenir à une forme de perfection qui est la perfection de l'usage qu'il fera de son libre arbitre.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Les méditations métaphysiques proposent à chaque lecteur une expérience spirituelle et intellectuelle originale. Une expérience en première personne. Je rentre en moi-même et j'expérimente les pouvoirs de mon esprit, les puissances de mon âme. J'ai cherché dans la quatrième méditation quelle était l'origine de l'erreur. Et je l'ai trouvée. L'origine de l'erreur est en moi, elle est dans l'usage abusif que je fais de ma volonté quand j'affirme que je nie quelque chose que je ne connais pas, ou pas suffisamment. Ayant découvert l'origine de l'erreur, j'ai découvert par là même la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est le libre arbitre. Il est donc plus grand qu'existe un être capable d'erreur et de péché, plutôt que n'existe seulement une machine ou un robot, pour mettre les pieds dans le plat du transhumanisme aujourd'hui. Donc l'homme est grand, paradoxalement, en ceci qu'il peut se tromper et qu'il peut pécher. La méditation cinquième nous fait retrouver une question que nous avons déjà rencontrée dans la cinquième méditation. C'est la question de l'existence de Dieu. Dans la cinquième méditation, examinant ses pensées, Descartes découvre une idée dont il n'est pas l'auteur, qui est l'idée de l'infini, et cette idée de l'infini est première. La cinquième méditation me tourne vers l'idée de Dieu de nouveau, et maintenant saisie sous l'idée de perfection, l'idée de l'être parfait. Alors c'est le fameux argument ontologique, que signifie-t-il? Si je regarde l'idée d'une licorne, par exemple, ou l'idée d'un cheval ailé, comme dit Descartes, je vois bien que mon imagination peut ajouter ou enlever un nombre indéterminé d'ailes au cheval ailé. En va-t-il de même pour toute idée? Et notamment, eu égard à deux points capitaux qui sont l'être et l'essence. Je vois bien que je peux avoir la pensée d'une chose, d'une essence, qui n'existe pas nécessairement, à laquelle je ne rattache pas l'être nécessairement. Par exemple, la licorne. Je peux avoir l'idée de la licorne, mais la licorne n'est pas. En va-t-il de même pour Dieu? La grande thèse de Descartes, c'est que, là encore, l'idée de Dieu fait exception dans le trésor de mes pensées. Si j'examine l'idée de Dieu, je m'aperçois qu'elle est telle que je ne peux pas séparer l'être d'avec l'existence. Dieu est l'être parfait. Et le point important ici, c'est que l'être, plutôt être, verbe à l'infinitif, être est une perfection. L'idée de l'être parfait inexistant est contradictoire. S'il n'était pas, il lui manquerait une perfection, et peut-être la première perfection, qui est d'être. On ne peut donc pas concevoir un Dieu sans l'existence. L'existence ne peut pas être séparée de l'essence, ou plutôt l'être ne peut pas être séparé de l'essence. La conclusion donc, c'est que Dieu est tel que quand je pense et que je suis attentif avec sérieux à l'idée de Dieu, je découvre en lui l'inséparabilité de l'être et de l'essence. Je lis Descartes, Dieu seul est tel que, à son essence, l'existence appartient avec nécessité. Si je considère toi, moi, n'importe quelle chose finie et contingente, je vois bien que, précisément, elle est contingente et qu'elle n'existe pas nécessairement. Dieu est tel qu'il est nécessairement. Voilà le grand enseignement de la cinquième méditation. Nous arrivons à la sixième méditation, qui porte sur quelque chose encore de nouveau et d'important. Ce quelque chose, c'est le corps. Beaucoup de gens qui ont mal lu Descartes ou trop vite croient que Descartes en reste au dualisme. On dira Descartes est dualiste, il sépare l'âme du corps, mais il faut lire Descartes avec sérieux, et notamment la sixième méditation, pour s'apercevoir que le problème est tout à fait différent. Du point de vue intellectuel, certainement qu'il me faut séparer l'âme d'avec le corps. Et Descartes parle bien de séparation réelle. Ce sont deux entités distinctes. Un corps, c'est de l'étendue, de l'espace, chez Descartes. L'âme, c'est de la pensée. Mais voilà l'étonnant. C'est que si l'entendement sépare radicalement les deux, l'expérience nous fait voir l'unité des deux. L'expérience quotidienne pour un être humain, c'est l'expérience de ce que Descartes appelle l'interaction de l'âme et du corps. Cela veut dire que le corps agit, le corps comme corps humain, ici corps propre, le corps agit sans cesse sur l'âme. Nous voyons bien comment nous avons faim, nous avons soif, nous sentons de la douleur dans un membre, et cela ne se passe pas seulement dans une machine, cela est en même temps senti dans l'âme. L'âme souffre, et je ne dis pas mon pied me fait mal, mais je ai mal au pied. Donc nous voyons ici que des modifications dans le corps sont immédiatement senties dans l'âme. Et inversement, nous voyons que des pensées de l'âme, dans l'âme, agissent sur le corps. Par exemple, j'ai la pensée de me lever, de marcher, de lever ma main, et mon corps accomplit cela. Donc l'expérience qui est la nôtre, le fait indubitable qui est le nôtre, c'est le fait de l'union de l'âme et du corps. Ce qui veut dire que Descartes ici est à l'origine aussi d'une grande tradition qui jouera un rôle capital dans la philosophie française et dans le spiritualisme français, c'est la découverte du corps propre. Le paradoxe, donc, c'est qu'un philosophe de l'esprit qui pense que l'homme est une res cogitans, une chose qui pense, cela pourrait nous laisser craindre un homme désincarné. Or, Descartes, au contraire, est attentif à l'homme incarné, à l'incarnation de l'homme, c'est-à-dire à l'union et à l'interaction de l'âme avec son corps. Et le grand texte sur la question, ou un des grands textes, c'est la sixième méditation. Parlant de son corps, Descartes dit « ce corps que par un certain droit particulier j'appelle le mien. Mon corps, ceci qui est mon corps, voilà donc quelque chose d'infiniment précieux pour penser l'homme. L'homme est dans le fait inséparable d'avec son corps. » L'autre point capital, c'est le fait que je ne peux pas me penser dans mon corps comme un pilote dans son navire. Un pilote voit avec l'œil qu'il y a un trou dans la coque et ne ressent pas de souffrance. En revanche, moi, je ressens mon corps et tout ce qui se passe dans mon corps est ressenti, peut-être pas tout, certainement pas tout d'ailleurs, mais beaucoup de choses qui ont lieu dans mon corps sont ressenties dans mon âme. Le verbe qu'emploie Descartes, c'est le verbe « ADC », qui veut dire « être auprès d'eux »,« être présent à ». Ce qui veut dire que le dualisme cartésien n'est pas ce que l'on croit. En vérité, je suis présent à mon corps. Je suis sentant en mon corps, présent à mon corps, et je forme comme un seul tout avec lui. Descartes explore ici donc toute la grande découverte de l'union de l'âme et du corps. Dans une lettre célèbre à Élisabeth du 28 juin 1643, il revient sur le point en montrant que nous expérimentons l'union de l'âme et du corps et que la seule manière de la penser, c'est de vivre. Et il ajoute en parlant à la princesse Élisabeth, « J'ai quasi peur que votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement. » Mais Descartes parle bien sérieusement. C'est dans la vie quotidienne, en dansant, en mangeant, en marchant dans la forêt, en admirant la couleur des plantes, comme le dit Descartes ailleurs, que nous expérimentons ce mystère de l'union de l'âme et du corps.